la première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h, par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi, par où dire ?
Évidemment, c'est un thème, l'air, un peu particulier. L'air a été beaucoup étudié par les philosophes. On a eu beaucoup l'air comme thème dans la littérature, dans l'art. Évidemment, les scientifiques se sont penchés sur le thème de l'air beaucoup. Dans le design, c'est peut-être un peu différent.
Voyageons et nous.
D'un côté, l'air est invisible, est intangible, donc ce n'est pas une chose de laquelle on s'aperçoit avec les sens. On pourrait dire l'air, c'est presque rien. L'air, c'est une évidence. L'air est là.
Voyageons et nous. Au Grand Tournu, au CID, jusqu'au 13 octobre, design de l'air. Avec Chris Meplon et Marie Poc. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez voir ça, Kim.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tento, me tento, me tento, stélé.
Le monde invisible.
D'un côté, on ne réfléchit pas trop à l'air et dans le design. Quand on parle aux designers, ou quand j'ai demandé de proposer des projets par rapport à l'air, les réactions étaient un peu hésitantes parfois. On n'est pas trop conscient de l'importance. D'un autre côté, nous savons tous, l'air, c'est la vie. L'air pur, c'est la santé. Nous avons tous besoin de respirer. On peut dire aussi, c'est presque tout. C'est un élément essentiel. L'air est un peu partout. Ça aussi, on peut le dire, c'est le cas dans le design. Au fait, la difficulté, c'était un peu de choisir des objets par rapport à ce thème.
Marie Poc, un mot sur la commissaire que nous sommes en train d'écouter.
L'air et le design, c'est les objets gonflables, c'est les objets pneumatiques. Non, 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 c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Aussi bien des choses techniques. Évidemment, on ne va pas aller vers cette direction technique, on ne va pas montrer des pompes qui sont plutôt design-ingénieur.
Chris Meplon est journaliste et commissaire indépendante et c'est elle qui nous avait conçu l'exposition « Ceci n'est pas une copie ». Alors, elle est arrivée dans l'aventure quand on nous a imposé, entre guillemets, le thème de l'air pour cette exposition à travers le design. C'était quelque chose qui me semblait infranchissable, cette idée de trouver des liens entre l'air et le design. Bon, bien sûr, on a toujours en tête les objets iconiques comme les gonflables, les inflatables des années 60, mais je me disais, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer ? Et en fait, Chris s'est attelée au sujet, elle se l'est complètement appropriée, elle a mené ses recherches et quelques mois plus tard, elle est arrivée avec pléthore de propositions de designers qui réfléchissent à l'air en tant que matériau, à l'air en tant qu'élément naturel qui est malheureusement très malmené par l'homme, qu'il faut absolument protéger, purifier, sur l'état duquel il faut alerter la population. Et donc, elle a aussi ajouté à ça toute une série d'objets très métaphoriques, très poétiques. Et donc, elle est arrivée avec tellement de propositions, on a dû en refuser évidemment plus de la moitié, qu'elle nous a fait une exposition qui est à la fois concrète, qui ouvre à la fois des perspectives vers des choses comme ça, tout à fait évanescentes, l'air, le nuage, la bulle, le ballon.
Nous avons donc dans l'expo 6 groupes qui sont 6 angles différents. Je trouve important de ne pas appeler ça des catégories. Il ne s'agit pas ici d'une classification, il ne s'agit pas d'une approche un peu fondée quand même, mais pas scientifique du thème.
Mais évidemment, en tant que centre d'innovation et de design, le Grand Tournu s'est penché sur l'élément air en essayant d'aller chercher ses applications dans le design contemporain.
J'ai choisi des associations assez spontanées, assez directes. L'air dans le design, ça fait penser à quoi ? Et ça nous donne donc 6 groupes. Il y a un groupe d'objets remplis d'air. Donc là, L'air est regardé comme un matériau vraiment alternatif de remplissage.
Et c'est là que, très embêtée par la difficulté du sujet, j'ai proposé à Chris Méplon, donc qui est journaliste et commissaire indépendante et qui a déjà réalisé chez nous l'exposition « Ceci n'est pas une copie », j'ai demandé à Chris donc de prendre en main le commissariat de cette exposition et vous verrez qu'elle a approché ce sujet d'une façon à la fois positive, malgré un contexte où on parle souvent de pollution de l'air, de la préciosité de cet élément que nous mettons en danger. Elle en a donné une interprétation qui est tout à fait positive, prospective et inspirante.
Ensuite, nous avons les objets formés par l'air. Là, on voit un peu les techniques de production quand même.
Chris Meplon.
Après, un sujet extrêmement important aujourd'hui, c'est le sujet de l'air pur. Les designers contemporains réfléchissent beaucoup à la question, le problème de la pollution. Donc on a un peu cherché là ce qu'il propose. Un autre groupe, c'est l'air en mouvement. L'air en mouvement, vous pensez tout de suite le vent. Alors là, ce sont des choses comme les ventilateurs, les instruments à vent, il y a un lien, l'air qui siffle, le son. Après, c'est un groupe quand l'air protège. L'air est une force, l'air c'est la force. Et là, on voit par exemple l'air comme amortisseur, l'air comme isolant. Et après, finalement, il y a cette catégorie que j'espère tout le monde aimera beaucoup, c'est en l'air. Donc là, c'est l'air, c'est l'imagination, c'est le rêve. Là, on retrouve les bulles d'air, hein. On a tous besoin de bulles d'air. On retrouve les nuages, on retrouve des ballons.
Un objet, un concept, Marie Poch, qui vous tient à cœur à travers cette exposition que vous voulez épingler?
J'ai envie de parler d'un objet, un ustensile, en fait, un instrument, la canne du souffleur de verre. C'est un instrument qui est utilisé depuis des siècles dans le soufflage du verre et qui n'a jamais évolué. Le designer allemand Philipp Weber, qui est un jeune designer, a tout à coup décidé de faire évoluer cet instrument en y ajoutant des pistons un petit peu comme sur une trompette. Ce qui lui permet, quand il souffle le verre, à la fois de faire sortir du son et donc d'accompagner le soufflage du verre de quelque chose de musical, mais ça lui permet aussi, en jouant sur le débit, sur le flux de l'air, de modifier la forme de la bulle de verre qui sort de cet instrument. Et donc je trouvais que c'était une très très belle façon d'utiliser l'air qu'on utilise de façon traditionnelle dans le soufflage du verre, mais pour donner une dimension supplémentaire au processus, à l'objet, donc une dimension qui est poétique et formelle. Et donc pour moi, c'est vraiment un projet très très complet et tout à fait inattendu, puisqu'on ne s'attend plus à voir évoluer la canne du souffleur.
Comme je vous ai dit, souvent les gens pensent gonflable, inflatable, l'air c'est la joie, c'est la liberté. Parfois aussi on pense aux jouets, aux objets liés au sport, au camping. Pour ce groupe-là, nous avons décidé de prendre quelques exemples historiques, iconiques. En général, l'expo ne vous présente pas une histoire du design. L'expo est fort, fort contemporain. Donc la question est fort comment réfléchissent les designers sur le sujet d'air aujourd'hui. Malgré ça, nous avons donc quelques exemples iconiques du designer français-vietnamien Kazar Khan. C'est donc toute une époque qui est reflétée dans ces objets-là. C'est 68, c'est la culture pop, donc la liberté, la rébellion contre les conventions bourgeoises. C'est une nouvelle façon de s'asseoir, de vivre. Donc les objets de Kazar Khan sont des très bons exemples.
Voyageons et nous. Au Grand Tournu, au CID, jusqu'au 13 octobre, Design de l'air, avec Chris Meplon et Marie Poch.
Par contre, on a trouvé très important d'étudier aussi comment on voit cet air aujourd'hui. Parce que on peut dire du positif sur les objets gonflables comme synonyme de liberté. Une autre image, c'est aussi la société de consommation des objets pas chers et jetables. Aujourd'hui, on voit plutôt que les designers voient une possibilité d'écologie dans l'air. Un mot-clé, là, c'est la dématérialisation, l'économie des moyens. En utilisant de l'air, par exemple, pour remplir des objets, on n'a pas besoin d'autres matériaux, de matière.
Un projet de designer, donc c'est un collectif indien, Gravity Lab, qui a travaillé pendant une année à récolter les particules fines qui sortent des pots d'échappement des voitures à Delhi. Alors vous connaissez un petit peu l'Inde, hein, vous avez tous en tête ces clichés d'embouteillage surpollué, surbruyant. Bon, on passe une journée accroché au pot d'échappement d'une voiture, ce qu'on récolte de ça, c'est une espèce de magma de pâte noire immonde. Et au bout de la journée, toute cette pâte noire donne une matière qui a servi à faire de l'encre. Et donc Gravity Lab a créé des petits pots d'encre, un peu comme des pots d'encre de Chine, mais aussi des stifts, des marqueurs à cette encre polluée, qui sont réutilisés en Inde par des artistes qui dessinent, écrivent dans l'espace public des messages pour alerter le public sur la pollution de l'air. Donc là, on est face à un projet qui est plutôt un projet, on va dire, engagé, qui travaille aussi sur un processus de transformation, hein, comment des particules fines qui sortent des pots d'échappement des bagnoles peuvent donner autre chose. Donc il y a quand même un côté transformationnel positif, on essaye d'en faire autre chose, quelque chose d'utile, le stift, le marqueur, et en même temps on est dans de l'art assez activiste puisqu'on dénonce une situation qui n'est pas acceptable.
Un autre aspect, c'est le confort qu'on connaît tous, hein, les matelas pneumatiques, tout le monde le sait, c'est très agréable. C'est une recherche que font les designers en créant des objets remplis d'air.
Pour nous, donc, nous nous sommes penchés sur le thème de l'air. Alors l'air, si on prend l'aspect historique lié à l'histoire du Grand Ornu, l'air, ce qu'on appelait l'aérage ou la ventilation dans la mine à l'époque, était évidemment essentiel. D'abord pour permettre aux hommes et aux animaux de respirer dans la mine, mais l'air était également indispensable à la combustion, pour les lampes, pour les machines qui fonctionnaient avec des moteurs à combustion. Mais l'air permettait également aussi de diluer les gaz toxiques et dangereux et de refroidir la température dans les mines les plus profondes.
Les objets formés par l'air, là c'est intéressant qu'on voit des autres matériaux. À côté du PVC, on voit par exemple évidemment le verre soufflé, mais aussi on a des exemples de métal et de plastique, et de papier, de textile, même de parchemin, de peau.
Voyageons et nous. Au Grand Ornu, au CID, jusqu'au 13 octobre, design de l'air, avec Chris Meplon et Marie Bock.
Mon nom, c'est Serge Ustache, H-U-S-T-A-C-H-E, président des rencontres inattendues et président du Collège provincial.
Je voudrais peut-être vous dire en quoi, dans le fond, cette rencontre inattendue rencontre également la rencontre entre l'air ici et ce lieu qui est un lieu tout à fait exceptionnel. Je crois que la vie est faite de rencontres et de plus en plus on a besoin d'aller vers l'autre dans un monde où on est de plus en plus isolé, solitaire. Et je crois qu'il y a quelque chose d'abord qui nous rapproche déjà au départ, c'est-à-dire on n'est pas n'importe où ici. On a signalé tantôt, ce sont des lieux qui sont reconnus par l'UNESCO, au même titre que Gizeh, que d'autres endroits exceptionnels. En ce qui nous concerne, on n'est pas encore candidat à être lauréat immatériel de l'UNESCO, mais enfin peut-être que ça viendra aussi un jour. Et donc il y a quelque chose d'intéressant dans cette rencontre entre ce lieu et quelque part les arts du futur, le design, c'est quelque chose d'inattendu. Et chez nous, bien, l'inattendu vient de la rencontre au départ entre la musique et la philosophie.
À Tournai, les inattendus, encore ce vendredi et samedi 30 et 31 août, avec Serge Eustache.
Et comme la commissaire de l'exposition nous le disait, oui, il y a toujours un lien quelque part entre les choses, et notamment entre l'air et la philosophie, puisque les philosophes antiques voyaient l'air comme, dans Anaximène d'ailleurs, comme l'essence un peu du monde. Et puis la musique, vous l'avez dit aussi, c'est aussi comment du vent quelque part, c'est du souffle que l'on produit.
Voyageons et nous.
Cette année, pour cette 9e édition, eh bien, on a le thème de habiter le monde. Alors, habiter le monde, c'est vraiment quelque chose qui est en phase totale avec l'actualité donc du moment. Et je voudrais vous lire deux petits extraits, en tout cas tout d'abord, de quelqu'un qui s'appelle Satish Kumar, qui est un écrivain et brésilien, qui avait cette phrase très pertinente, qui en plus, je pense, est en résonance avec l'actualité. Dans les mains, dit-il, des réalistes, la société est tirée vers le bas. Les réalistes ont eu assez d'occasions de faire quelque chose, ils ont échoué. Alors maintenant, donnons une chance aux idéalistes, c'est-à-dire aux philosophes. Essayons de trouver d'autres types de réponses que les réponses traditionnelles. En philosophie, et des inattendus, c'est d'abord donner du plaisir. Hein, c'est clair, vous le verrez, c'est musique et philo. C'est vraiment d'avoir quelque chose de beau. Et comme le disait Flaubert, l'important, ce n'est pas le vrai, mais c'est le beau. Mais c'est aussi d'engager une réflexion. Ce n'est pas, un festival hors sol, c'est-à-dire on est vraiment en phase totale ou en résonance en tout cas avec l'actualité. Alors le thème de Habiter le monde, eh bien il est inspiré de ce petit opuscule ici de notre invité, mon grand invité de cette année qui est Fellwil Sarr. Alors Fellwil Sarr, c'est un Sénégalais, il est né à Dakar, alors il est un petit peu, on a parlé de beaucoup de choses qui nous rapprochaient, lui il est à la fois économiste et poète, ce qui est déjà pas mal, on rêve d'ailleurs d'avoir plus d'économistes et de chefs d'entreprise poètes, ça irait sans doute un peu mieux. Et puis, il est aussi philosophe et musicien, donc il est carrément là dans l'esprit de notre festival. Et il a, je vais lire un extrait en tout cas d'Habiter le monde, parce que c'est ce qui va être un petit peu le fil rouge de ce week-end. Il dit « Habiter le monde, c'est se concevoir comme appartenant à un espace plus large que son groupe ethnique. » C'est pleinement habiter les histoires et les cultures du monde et de l'humanité, endosser ses multiples visages, se sentir héritier des gisements que nous proviennent des cultures plurielles. Donc voilà, premier grand invité, c'est Fellwil Sarr, né à Dakar. Et à Dakar, vous vous souvenez peut-être, il n'y a pas si longtemps que ça, un président non regretté français disait que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Je crois que c'est en tout cas Fellwil Sarr, la merveilleuse réponse que l'on peut apporter à cette prétention et cette arrogance de certains. Deuxième personne, et ça je suis sûr que ça va vous parler très fort, c'est Roca Traoré. Roca Traoré, c'est une chanteuse absolument exceptionnelle, malienne, qui est mandingue. Alors, il nous offre un spectacle tout à fait intéressant, puisqu'il est basé sur sa propre histoire à elle, c'est-à-dire du Mali, de l'empire mandingue, c'est-à-dire qu'on va retourner au XIIIe siècle, et au XVe siècle, pardon, et à l'époque de l'émergence de l'empire mandingue, donc de l'empire du Mali, avec l'histoire d'un empereur assez incroyable, tout à fait authentique, qui était un empereur tout à fait empreint de tolérance et d'ouverture vers l'autre, à l'époque d'ailleurs où les ancêtres de ce président français non regretté, vivaient encore sous le joug, quelque part, de l'Inquisition, et où maintenant, et j'ai eu le privilège d'aller il y a quelques années au Mali, mais où maintenant il n'y a plus d'empereur tolérant, mais c'est bien malheureusement l'islamisme, il y a encore eu des attentats il n'y a pas très très longtemps. Troisième invité, Olivier Urbain, une double qualité. La première, c'est qu'il est de Wallonie-Picarde, il est tourné, ce qui est déjà très bien. Et la seconde aussi, c'est qu'il est au Japon, directeur d'un institut où il travaille avec des musiciens japonais, mais vraiment extrêmement brillants, connus, sur la manière dont la musique peut participer à résoudre des conflits. Et donc, il nous parlera de ça.
À tourner, les inattendus.
Ça se déroule dans un écrin assez exceptionnel, hein, c'est-à-dire c'est la cathédrale, le quartier cathédrale, et donc la province propriétaire de la cathédrale est donc amenée à rénover cette cathédrale. C'est un peu le chantier du siècle aussi, hein, faut savoir, c'est énorme, hein, c'est un budget de 40-50 millions. On a trouvé pertinent de faire accompagner ce chantier par des activités type culturelles.
Encore ce vendredi et samedi 30 et 31 août, avec Serge Eustache.
Quatrième personne, c'est Boualem Sansal, qui est l'auteur du Sang des barbares et de 2084, La fin du monde, qui est quelqu'un qui est très actif aussi dans la lutte contre les intolérances. Et il va nous parler, lui, de quelqu'un qui, en tout cas en ce qui me concerne, me parle aussi beaucoup, qui est d'Albert Camus, autour d'une de ses nouvelles peu connues qui s'appelle L'hôte. Et c'est toute la question de la solitude, de la solidarité qui est posée aussi dans un monde où cette question est plus posée que jamais. C'est Gwenaëlle aussi Aubry, c'est une romancière française qui a écrit un livre très beau qui s'appelle La folie Elisa. C'est l'histoire de quatre femmes, quatre artistes qui se rencontrent après le Bataclan. C'est toute la question aussi, comment vivre. D'aucuns posaient la question comment vivre après Auschwitz. Ici, la question, c'est un peu comment vivre finalement après le Bataclan. Et puis, on aura aussi Edu Plenel. Edu Plenel, qui est le rédacteur, enfin le responsable de Mediapart, qui a été pendant longtemps le directeur du Monde, qui va nous parler, quant à lui, de l'actualité, de la manière de décrypter l'actualité. Et si vous avez lu la presse le soir, plus particulièrement d'hier, eh bien, vous avez Jean-Paul Martos qui nous invite d'ailleurs, et qui invite tous les journalistes du Monde à être très attention au bruit de bottes qui sont en train de se faire sentir du côté du Golfe, et de faire très très attention à la manière dont notamment les États-Unis pourraient manipuler l'opinion publique pour nous entraîner vers une guerre dont on n'a absolument pas du tout envie. Enfin, parce que justement, ce festival, ça n'est pas que, il y a plein de choses, mais vous pourrez le découvrir. C'est aussi une création à travers des jeunes. On est tout un monde, c'est un collectif qui s'est mis en place avec des associations de jeunes, des maisons de quartier, or des publics qui, a priori, ne sont pas les publics que l'on pourrait penser le public type, quoi, modèle, stéréotypé, des inattendus, mais des gens qui créent quelque chose, et je peux vous assurer qu'ils créent des choses absolument fantastiques. Quand on donne la parole, ce compris la philosophie, à des gens à qui on ne la donne jamais, eh bien, ça donne des choses absolument exceptionnelles. Et pendant tout le week-end, eh bien, ils vont créer un village de la philosophie, avec une brasserie philosophique. Donc voilà.
À tourner, les inattendus.
Or, musique et philo, ben, ça cadrait bien avec la cathédrale. Et donc, aujourd'hui, les spectacles que l'on propose, qui sont des créations, généralement, et dans cette cathédrale, c'est des moments exceptionnels. Je pense notamment à un moment qui aura marqué tout le monde. C'était une rencontre entre Éloi Bodimont, musicien tournaisien, Ramzi Abdourahdouane, musicien palestinien, avec Edgar Morin. Ce spectacle exceptionnel dans la cathédrale, les gens en gardent un souvenir absolument inouï, quand notamment Edgar Morin a crié « fraternité » qu'on se retrouve entre le bourgmestre de Tournai, Monseigneur Arpini, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, les inattendus, c'est ça, c'est ces rencontres inattendues, c'est beaucoup d'émotions, vraiment quelque chose vraiment qui manquait, je pense aussi, non seulement à Tournai, mais en Belgique, parce qu'on ne connaît pas d'autres festivals du même type. On a beau chercher à Saint-Émilion, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu, évidemment. Saint-Émilion, ça sonne fort, évidemment, mais il n'y a pas d'autres festivals de ce type, et drainer entre 8 et 10 000 personnes pour la philosophie, c'est pas si mal que ça.
Jean-Pierre Deneuve, cette édition 2019 à Artour, vous dites Soigny.
L'exposition regroupe une trentaine d'artistes dans une 12 lieux, je pense.
Artour, jusqu'au 8 septembre, avec Jean-Pierre Deneuve.
Jean-Pierre Deneuve fait partie du groupe de travail d'une dizaine de personnes. Et puis, une fois que le thème est défini, que la marche à suivre intellectuelle a été clarifiée. Il y a des commissaires, appelons ça comme ça, même si je n'ai pas un amour particulier pour les commissaires et leurs commissariats. Enfin, je parle d'une autre vie. Chacun se charge d'une exposition. Cette année-ci, c'est, comme pour la sixième fois déjà, un travail dans les tribunes de la collégiale de Soigny, collégiale Saint-Vincent à Soigny. Le temps est le thème général, et nous avons travaillé avec Philippe Duby, qui est dessinateur, et Étienne Collas, qui est plutôt informaticien, qui fait des images numériques, travailler sur, comme les autres fois, un objet observé dans la collégiale. Après une statuaire de Saint-Jacques de Compostelle, après le bestiaire chrétien, le tétramorphe de la chaire de vérité, cette année-ci, c'est un calice, c'est le calice. Qui dit calice dit communion, qui dit communion dit verbe s'est fait chair. La transsubstantiation voit le corps du Christ s'incarner dans l'hostie et son sang dans le vin. Et nous avons croisé cette lecture, une triple lecture, avec donc le côté sacré, le grand verre, avec un clin d'œil à Marcel Duchamp, puisque c'était aussi une espèce de transsubstantiation, son discours. Avec un calice tout cabossé qui appartient à Étienne Collas et qui est le souvenir d'un oncle père blanc jésuite en Afrique qui utilisait ce calice pour dire la messe dans les différents villages. Et Pierre-Jean Foulon, qui est écrivain par ailleurs et responsable de la réserve précieuse de Marimont et qui s'occupe aussi d'une très active dans la région de Thouin, lui a posé quelques mots qui actualisent le sang aujourd'hui à travers la guerre. et notamment un personnage, Nictor, qui est un personnage de Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire mourra après avoir écrit un court texte, une pièce de théâtre, mais où il imagine Nictor, un aviateur, qui survole les champs de bataille avec ce mélange de sang et de boue en 1918.
Au centre des Libulenko et Glantine Lebac, un humour suisse cet été.
Oui, un humour suisse cet été, qui est assez proche de l'humour belge en fait, avec une certaine dérision, un sens de l'absurde assez intéressant, et bah oui, plonk et replonk.
La Suisse romande fait partie de la Suisse qui contient beaucoup de Suisses allemands, quoi, donc on est une minorité, puis on est tourné vers la France, quoi, historiquement. Culturellement, la Belgique, je pense aussi, quoi. La Belgique est plus prise en étau encore entre le Nord, la Flamandie, les Bataves, les Allemands, la France, etc. Quoi. Donc, c'est pas pour rien qu'ils ont fait un pays après la guerre, hein, 1815, je crois. C'était pour faire une zone tampon, c'est comme ça qu'on vous appelle. Alors, irrégulier, moi, ça dépend les heures puis les jours, quoi. Mais j'essaie d'être le plus régulier possible, mais je ne connais pas la définition que vous en donnez ici.
Au centre des Libulles & Co, plonk et replonk tue le temps à la Louvière, jusqu'au 8 septembre, avec Églantine Lebac, Hubert Froidevaux, Clara Tomine, Eliane van den Heijn.
Du surréalisme belge, j'ai 53 ans maintenant, je l'ai découvert il y a 4 ans seulement. Je connaissais 2-3 noms, mais je ne connaissais pas le nid qu'il y avait. Et bien, Achille Chavé, oui, je fais une image, puis j'espère pouvoir en illustrer d'autres. Quoi. J'adore ces aphorismes.
Et qui est ce « et » entre plonk et replonk ?
Alors ça, c'est toute une histoire, parce que plonk et replonk, il peut être tout seul, ça peut être single, ça peut être duo, ça peut être trio, ça peut être quintette symphonique, comme il le dit si bien. Donc c'est Hubert Froidevaux hein, qui est à la base de plonk et replonk, et parfois s'associe avec d'autres personnes, d'autres artistes. Ça peut être au niveau du cinéma, au niveau du théâtre aussi, des éditions, etc.
Eliane ouais. Van den Heijn. Vous voyez ce dictionnaire qui s'appelle...
Flamand Vlaams, le prix Nobelge. Ah, c'est quand même de la zouance, hein. La zouance suisse. Mais bon, comme c'est un pays multiculturel, et c'est plonk et replonk.
Vous les connaissiez d'avant ?
Ah oui, je les suis depuis des années. Des années. Et un jour, j'ai voulu acheter un livre pour donner cadeau à mon amoureux, que je ne trouvais pas à Bruxelles. Et donc, je les ai appelés. Et puis, un des deux, parce qu'on ne sait pas toujours très bien qui est plonk et qui est replonk. Et ça s'est écrit avec un K, comme en flamand, pas avec un C, comme en français. Et je leur demande, oui, je peux acheter votre bouquin. Et puis, un des deux me répond, vous savez ce que c'est un Alsacien ? C'est un Suisse qui n'est pas parvenu en Belgique. Il y a une réalité... Une réalité de migration en même temps, donc une réalité sociale, politico-sociale. Et ça se trouve aussi dans ces œuvres qui font rire, bien sûr, c'est de la dérision, mais en même temps, c'est la réflexion sur la société.
Et vous dites un humour qui peut être belge, Glantine Lebac.
Mais c'est-à-dire qu'il y a un sens de la dérision aussi par rapport à la politique des pays. En Suisse, on a une confédération, donc on se moque toujours gentiment des alémaniques, des francophones, etc. En Belgique, c'est un peu la même chose aussi. Donc on retrouve cet humour par rapport à parfois un système politique un peu absurde aussi. Donc ça, on retrouve beaucoup par rapport à la langue, l'emploi de la langue aussi. S'il y a des jeux de mots, bah, ils ont bien compris que le flamand et le français en Belgique, c'était aussi un sujet un peu tabou, hein, toujours. Donc ils en ont joué également.
Voyageons et nous.
C'est une chaise est toujours assise, quoi. Bon, heureusement que j'étais assis quand je l'ai lu. Et puis, bah, j'ai juste pris quelqu'un. Il s'est un peu effacé, il reste la chaise et puis un bras. Et puis, là, je tiens à dire que c'est grâce à Alain Doisège, de la galerie sans titre à Bruxelles, à Saint-Gilles, que j'ai pu avoir accès à votre bazar. Et puis que j'y reviens souvent. Et puis que j'y reviens souvent, quoi. Mais s'il n'y avait pas eu Alain Doisège, je ne connaîtrais pas l'existence d'un dixième de ce qui s'est passé ici, quoi.
Au centre Télibul & Co., plonque et replonque tue le temps à la Louvière, jusqu'au 8 septembre. Avec Églantine Lebac, Hubert Froidevaux, Clara Tomine, Eliane van den Heijn.
Quand on cite votre nom, on dit tout de suite carte postale. Pourquoi ?
Parce qu'on a commencé avec des cartes postales. Parce que c'est un pensif, la carte postale. Et puis c'est début de Photoshop. Moi, c'était mon métier. J'étais un des premiers en Suisse romande à traiter ça. Et puis on utilisait la carte postale en sépia, vraiment. Parce que le sépia, c'est la vérité. C'est historique. Les gens y croient. Et les gens y ont cru, certains, quoi. Et donc ça permettait de faire des montages comme si c'était vrai. Et puis c'est une carte postale. Ce qui est bien, c'est que c'est celui qui l'achète qui paye la diffusion ensuite. Les 50 centimes de timbre. Mais ça, on n'y est pas pensé d'abord. Mais enfin, voilà. On a fait des pochettes plutôt. Et puis tout de suite, les journaux ont vu ça. On était un peu les premiers à faire ça en Suisse. Et puis on a vite commencé à travailler pour la presse, quoi. Mais ça a commencé avec des cartes. Il y en a... On continue toujours d'en faire, il y en a 500 comme ça. D'ailleurs, il y en a qui devraient être arrivés ici à la Louvière, je crois. On y fait 5 ou 6. En petit tirage limité pour la commune. On continue toujours d'en faire parce que c'est un petit carton. Moi, j'aime bien quand je vais quelqu'un puis que je vois une carte postale affichée dans les toilettes. Je me dis, c'est bon, voilà, elle a sa bonne place ici. Elle est vue. Et puis ensuite, on a fait toutes sortes de choses. Travaille pour les journaux, bien sûr. Une pièce de théâtre, des films, des animations, multitâches, quoi. Des livres aussi, pas mal de livres. Et puis beaucoup d'expos dans les musées, sur des thématiques, comme la Poste en France, qui sont des thématiques intéressantes, où on peut bien s'exprimer.
Je vois l'artiste en train de lire.
Oui. Le petit dépliant sur la couille de Suisse. Je pense que ça va l'intéresser en particulier, puisqu'en fait, on a décidé aujourd'hui d'offrir des couilles de Suisse, qui est une spécialité louviéroise, hein, et on trouvait que c'était tout à fait approprié de servir ça aujourd'hui. Ça l'a beaucoup fait rire. Donc je pense que là, il est en train d'étudier un peu l'histoire de cette fameuse couille de Suisse.
On a fait une expo à Metz, on avait intitulé ça « L'art temporain ». De plonque et replonque. Et un journaliste à Metz me dit, mais pourquoi temporain ? Je l'ai regardé longtemps, j'ai fait un silence radio, puis au bout d'un moment, il a fait, ok. Yeah, c'est pas con, voilà. Donc on n'est pas dans les galeries ou dans les réseaux comme ça, quoi. Parce qu'on fait des cartes postales, puis parce qu'on fait des pièces de théâtre, ou parce qu'on n'est pas des plasticiens. Voilà, comme vous dites.
C'est une espèce de pâte à pain comme ça qui est cuite dans de l'eau bouillante et qui est servie ensuite avec du beurre et de la cassonade. Alors c'est un plat qui a été beaucoup utilisé aussi pendant la guerre parce que ça coûte pas cher, c'est facile à faire. C'est resté quelque chose de local, une spécialité. Et donc quoi de mieux que de servir une couille de Suisse lors du vernissage planque et replanque. Deux même.
Moi c'est Bébert de planque et replanque. On va me surnommer la couille de Suisse ici, je pense, quoi, mais voilà, je vais pas y échapper, je pense.
Une image marquante, terrible, quand on entre au centre des Libul & Co., celle qui indique et qui renvoie aux attentats de Zaventem. Oui. Vous pouvez la décrire ?
Oui, c'est une image qui est tellement forte que je l'ai placée toute seule sur un mur, en fait. Donc c'est une vision d'une salle d'attente qui s'appelle ici salle d'attentat Zaventem. Il y a juste quelques chaises, des nuages, et donc on fait vraiment cette référence aux attentats. Il y a un jeu de mots, salle d'attente, salle d'attentat, qui est très fort. C'est-à-dire qu'on arrive à rire, ou en tout cas sourire, de faits graves aussi, qui sont produits il n'y a pas tellement longtemps. Donc quelque part, on n'a pas un recul historique qui permette de pouvoir en rire de façon plus ouverte, je vais dire. Mais ici... Il n'y a pas de côté malsain ou il n'y a pas un côté où on se dit « Mon Dieu, quelle horreur, c'est quand même horrible de rigoler de ce genre de choses. » Parce qu'il y a un côté poétique, je trouve, aussi dans cette photo, où on ne se moque pas, en fait.
C'était pour le Vigous, le journal satirique de Suisse romande. suite à cet attentat justement. J'étais venu chercher un Suisse à Bruxelles parce qu'il n'y a plus rien qui marchait, les trains, le graphiste Didier Millet. Puis j'ai fait cette image aussi dans... Ensuite, c'est une image qui est restée, qui n'est pas juste sortie dans la presse.
La salle d'attentat à l'aéroport de Zaventem, c'est un peu du Magritte. Mais en même temps, c'est une réalité effrayante qu'on a connue.
On a une sorte de moquette horrible. Et puis quatre chaises posées contre un ciel de nuages. Et puis c'est marqué salle d'attentat. Puis il n'y a rien d'autre, je crois.
Des chaises en ligne, et ça ressemble à des chaises de salle d'attente. Sauf que derrière, il n'y a pas de mur, il y a directement le ciel. Donc c'est comme si elles étaient sur un tapis volant, mais très plat et très un vrai sol volant, une plateforme volante. Mais donc au-dessus, il y a marqué salle d'attentat. Et alors, moi qui suis dyslexique, évidemment, je peux voir plutôt salle d'attente. Et le jeu de mots est clair, mais je mets du temps souvent à comprendre. Je sais qu'il y a un truc à comprendre, alors je prends le temps et puis je finis par trouver le problème. En sous-titre, il y a écrit « Aéroport de Zaventem ». Voilà.
Un objet qui tombe par terre, qui ne se casse pas, qui rebondit, ça peut être ça, ça peut être un coup de marteau, avec un deuxième coup de marteau sur le marteau. À la base, l'histoire voudrait que ça soit Jacques et Miguel... quand ils écrivaient à quatre mains, les deux autres fondateurs de Plonk utilisaient ce terme, Plonk et Replonk, dans leurs histoires, quand ils avaient 12, 13, 14 ans, quand ils commençaient à écrire. Après, ils n'ont jamais retrouvé la malle, mais une fois, une feuille qui va ressortir, on va retrouver ça. Mais ça, je l'ai déjà vu aussi, j'ai recherché aussi sur Internet, et je l'ai déjà retrouvé, ce terme Plonk et Replonk, ailleurs encore, mais voilà, c'est une onomatopée. Et puis quand on se présente au téléphone, on dit bonjour, c'est Plonk et Replonk, les gens demandent de répéter, parce que ils sont pas sûrs, quoi. Des cons comme ça.
Hubert Froidevaux.
Hubert Froidevaux me parle d'incrustation, de préparation, de vitesse d'exécution, presque de performance, tout de suite avec les moyens techniques, l'image, le montage très rapide. C'est votre façon de procéder ?
Oui, alors il y a un mélange de plusieurs choses là dans ce que vous dites, parce qu'il y a la technique d'incrustation que j'utilise beaucoup et qui n'est pas un processus si léger que ça.
Clara Tommy.
Normalement, mais en même temps, et la manière générale dont je travaille qui est effectivement assez, assez rapide, quoi, assez efficace, enfin pas efficace dans le sens. C'est rapide, c'est low cost plutôt. Je bricole, je ne sais pas si je bricole. Mais en tout cas, je suis dans un instantané clair, dans un rapport. Mais ça va avec la forme, enfin avec le fond de ce que je fais, cette forme. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un travail presque de reportage à certains moments. Donc un travail qui est fait sur le vif, dans lequel il n'y a aucune écriture préalable au tournage, ce qui est rare quand on fait des films quand même. Et où il y a vraiment une vraie, il n'y a aucune discontinuité, il n'y a pas de moment où je m'arrête pour chercher des subventions pour faire un film ou des choses comme ça. Les choses se font d'une traite parce que je fonctionne comme dans les arts plastiques aussi financièrement, et donc du coup je peux me permettre ça parce que c'est pas la même manière de se produire. Et du coup je fonctionne de manière extrêmement rapide, direct, fluide, et du coup même l'incrustation, effectivement, dans mon atelier je la pratique de manière aussi assez rapide et assez succincte dans la fabrication, parce que je me filme donc sur un fond vert, et voilà, les images qui sont sur cette carte mémoire, je les mets directement dans mon ordinateur, et je peux aller où je veux, quoi. Et donc moi qui fais des reportages dans la vraie vie, dans la réalité, je peux, à travers ce fond vert, aller faire un reportage dans le désert si j'ai envie, en restant dans mon atelier, ce qui est assez pratique. Vous devriez peut-être faire ça en tant que journaliste, enfin, je ne sais pas si vous êtes journaliste, vous qui m'interviewez, mais c'est assez pratique de pouvoir aller où on veut, parler de ce qu'on veut, en restant dans son atelier.
Ils ont aussi en commun d'être comme ici à la Louvière, je parle de la Belgique francophone, de la Suisse francophone, dans des régions limitrophes, en dehors du centre, excentrées, si pas excentriques.
Oui, peut-être, je n'y ai jamais pensé, mais c'est vrai. Mais c'est aussi un tout petit pays, en fait, la Suisse, qui fait ce qu'il veut quand on voit les référendums qu'ils organisent. Ils ont leur propre système.
Eliane van den Heijden.
Comme nous, en Belgique, on a notre propre système politique. Avec combien de gouvernements ? C'est quand même la dérision pure. Et eux, c'est pareil. Ils sont pas dans ce cartésianisme français, dans cette grande idée d'une grande nation, comme la France, comme l'Allemagne, qui n'est pas vraiment une nation, comme la Grande-Bretagne avec leur Brexit. Eux, ils font, et nous aussi, on fait déjà le Brexit à l'intérieur. Chaque patelin pour soi. C'est ça aussi une réalité politique et de plonk et de replonk.
Plonk et replonk, à vos yeux, c'est qui ?
C'est des gens qui m'ont beaucoup accompagnée avant de les connaître et après les avoir connus aussi, quoi. Avant de les connaître, parce que je regardais, je lisais leurs livres, je voyais leurs expositions. Et après les avoir connus, parce qu'on a commencé à parfois travailler un petit peu ensemble, à se croiser sur des projets. Clara Thomine.
Et vous êtes ?
Moi, je suis plasticienne, je suis artiste. Je fais des expositions dans des musées. Il y a des performances aussi, mais les vidéos sont souvent plutôt montrées dans des expositions qu'ailleurs, quoi. Enfin,
et ces vidéos, que montrent-elles ?
Elles montrent un peu de la pensée, elles montrent le monde autour de moi, et avec un peu de pensée que je produis moi-même en parlant. J'apparais à l'image, elles montrent le monde, les lieux, les endroits dans lesquels je me trouve et qui me paraissent avoir un enjeu, quoi. Elles montrent les... Oh là, attends, la moto. Elle montre les enjeux des situations qui m'entourent. En tout cas, certains enjeux, ceux que moi je vois. Et elle pose des questions. Et c'est ça qu'elle montre. Et voilà, donc j'apparais à l'image et je commente finalement ce qui se passe. Mais de manière quand même assez décalée, quoi. Je donne pas mon avis. Je donne pas mon avis.
Y aurait-il plonk et replonk en Flandre ?
Oui, je crois bien.
Pensez à qui ? Arnaud ?
Arnaud, oui, bien sûr, parce que lui, il dit par exemple le rap, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est laver ses pieds avec ses chaussettes.
Regardez ce qui se passait du côté des journalistes et la manière dont les journalistes couvraient cet événement, que je n'ai parlé directement des attentats. Comme les journalistes en parlent, ça en parle. Et donc j'ai plus fait un film sur les journalistes qui couvrent les attentats. Et qui couvre finalement un peu du rien aussi, dans le sens où il n'y a rien à filmer, quoi. Il n'y avait rien à voir. Il y avait la bourse avec des gens qui mettaient des fleurs, et c'était une mise en scène assez banale. C'était pas extraordinaire. Et ils filmaient tous ça, quoi. Et en même temps, ils parlaient des attentats, mais il n'y avait rien à filmer, il n'y avait rien à voir. Ils ne pouvaient pas ni aller filmer les scènes du métro, ni... Alors c'était un peu rigolo de voir tous ces gens rassemblés autour d'un truc qui n'est pas très intéressant et en même temps parler d'un truc très grave. C'est pas vraiment ça que le film dit, mais ouais, c'est ça que j'ai regardé, c'est ça que j'ai observé.
Et vous performez ?
Ouais, performe, ouais. Je joue et en même temps je joue moi-même. Je joue mon propre rôle, quoi. Je parle devant une caméra, mais presque finalement à la manière d'un youtubeur qui s'adresse aux gens qui regardent la vidéo. Je m'adresse aux gens qui regardent la vidéo dans mes films. Mais de manière un peu plus abstraite qu'un youtubeur. Je pense. Je sais pas si c'est très clair. Oui, je performe. Mais la performance, ça englobe tout. Et n'importe quoi aussi. Mais enfin, tout, je veux dire, ça englobe tout, vraiment.
c'est la dérision. Par exemple, comme le peintre Patrick van Kalkenberg, qui se dit, moi, je suis l'expert du seuil, parce que je me trouve sur le seuil d'une maison qui n'est pas à l'intérieur, mais qui n'est pas à l'extérieur non plus. Donc je suis entre les deux, et plonk et replonk, et tout cet humour, cette raillerie, est aussi entre les deux. Et il y a un collectif à Anvers qui s'appelle Ars, qui est un derrière de l'homme, et qu'eux aussi ont cette façon de dérision.
Si je vous dis Bataclan...
Qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Vous avez travaillé sur ce qui s'est passé là-bas?
Non. Bah, j'habite à Bruxelles quand même. J'ai travaillé sur les attentats à Bruxelles, ça oui, beaucoup. Mais alors le Bataclan, non.
Et Glantine Lebac évoque le Jura, quant à vous, de votre...
Oui, c'est notre pays d'origine, le Jura suisse. Donc les Franches Montagnes, c'est un plateau à 1000 mètres où les gens ont un peu une tête de bois comme ça, quoi. Ils font un peu qu'à leur tête. Parce qu'il y a 6 mois d'hiver, puis 6 mois d'impôts. Donc les saisons sont courtes. Donc on vient de là, quoi, à la base, quoi. Après, on s'est établi à 20 km à la Chaux-de-Fonds, parce que les loyers n'étaient pas trop chers. Puis ça, comme ça qu'on travaille, quoi.
C'est la ville où Le Corbusier est né ?
Oui. C'est très chouette parce qu'il est né à la rue de la Serre, Monsieur Jeanne Rest, de son vrai nom. Et puis, il y a une plaque en bronze sur la maison. Ici est né Le Corbusier. Juste en dessus, il y a la maison de Blaise Sandrard aussi, où il est né. Mais celle du Corbu, elle est chouette parce que maintenant, c'est un magasin de farce et attrape. Et ça lui va bien. Ça l'enterre une deuxième fois. C'est vrai. Blaise Sandrard, la maison de sa naissance, c'est un radiologue qui est là.
Clara Thomine.
Basée à Bruxelles ?
Oui, j'habite à Bruxelles, je travaille à Bruxelles.
Et vous avez étudié à Bruxelles ?
J'ai fait l'ERG, oui. J'ai étudié à l'ERG. Et avant, je ne vais pas le... faut pas le cacher. Enfin, faut pas l'oublier, plutôt. J'ai étudié à l'École des Beaux-Arts de Nancy. Et ensuite, je suis allée faire mon master à l'ERG. Voilà.
Nancy, d'où vous venez ?
Nancy, d'où je viens, oui. Je suis née à Nancy.
Et dont vos parents ?
Sont non, pas, je sais pas, ils sont pas originaires de là, mais moi, je suis vraiment née à Nancy. Et j'y ai passé une très grande majorité de ma vie. Et j'y ai même étudié les premières années post-baccalauréat.
Et si je dis 4 litres 12 ?
Ah, je connais très bien. 4 litres 12.
Qu'on a pu voir à Bruxelles dans les années 80.
Mais ça me fait un peu quelque chose dans le ventre quand vous dites ça pour une raison simple, c'est que c'est mon papa et les Michel Masset et Odile Masset qui ont créé cette troupe aussi avec Eric. Et donc, en fait, je connais très bien, évidemment, parce que je suis née dedans. Je suis née dans cette troupe de théâtre. Mais en fait, j'ai jamais vraiment vu... les pièces à l'époque où mon papa y jouait, parce que à ce moment-là il a eu des enfants, quoi. Quand je suis née il a eu des enfants et il a moins joué, il a plus mis en scène et ensuite il a plus fait des films. Et alors je rêve de rencontrer des gens qui ont plus de gens, parce que j'en connais peu, qui ont vu ces pièces. Alors si vous en avez vu, j'espère qu'on va continuer à discuter. Et voilà, moi j'ai vu quelques pièces de 4 litres 12 à Nancy, les récentes, avant que cette troupe s'arrête. J'ai vu les quelques dernières, mais j'ai pas connu l'âge d'or de 4 litres 12.
Voyageant et nous, au Grand Tournu, au site, jusqu'au 13 octobre, Design de l'air, avec Chris Meplon et Marie Poc. À Tournai, les inattendus, encore ce vendredi et samedi 30 et 31 août, avec Serge Eustache. À Retour, jusqu'au 8 septembre, avec Jean-Pierre Deneuve, Au centre Télibul Co, plonk et replonk tue le temps à la Louvière, jusqu'au 8 septembre, avec Églantine Lebac, Hébert Froidevaux, Clara Tomine, Eliane van den Heijn. Voyage en Hainaut, par Thierry Genicot.